Bonjour, nous retrouvons aujourd'hui l'amiral Alain Coldefy pour parler de son actualité littéraire, Le sel et les étoiles. Ce podcast est réalisé par France Amérique. Bonne écoute.
Bonjour amiral.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur d'un ouvrage publié aux éditions Favre le 10 septembre dernier, intitulé Le sel et les étoiles. Ouvrage mêlant réflexion autobiographique, géopolitique et géostratégique. Vous avez notamment été commandant du groupe aéronaval franco-britannique au Kosovo en 1999, major général des armées, inspecteur général des armées et président de l'Académie de marine. Et aujourd'hui, vous êtes le président de la Société des membres de la Légion d'honneur. Ce parcours a débuté par votre choix d'entrée dans la marine en 1965. Alors, pouvez-vous, vous l'expliquez dans votre livre, mais pouvez-vous nous expliquer ce qui pousse un jeune homme à 18 ans à se lancer de 1 dans l'armée et de 2 dans la marine, plus spécifiquement?
Alors, c'est pas aussi binaire que ça. J'avais envie de faire un métier d'ingénieur. J'avais envie, comme mon grand-père, enfin bref, et j'avais envie de naviguer, de découvrir le monde, de découvrir d'autres civilisations, etc. J'avais pas du tout envie d'être un officier de l'armée de terre, voilà, pour faire clair. Hein. Et donc, comme le concours de naval était un concours scientifique, ça m'allait très très bien, et donc je me suis orienté là-dessus. Je pense qu'il y a un siècle, j'aurais peut-être été, c'est un peu le sens des étoiles, j'aurais peut-être été méhariste pour traverser le Sahara avec les étoiles. Enfin bon, à l'époque plus récente, c'était la mer qui combinait la technologie, le métier d'ingénieur, des métiers très, très, très variés, puisque c'est que dans la marine, on fait les métiers des 3 autres armées et de la gendarmerie, quand même, dans nos différentes. Et donc, des possibilités de faire des tas de choses. Voilà. Je ne savais pas trop quoi, d'ailleurs.
Amiral, vous venez justement de parler des étoiles. Vous faites référence à votre livre Le sel et les étoiles. Pourriez-vous expliquer le choix de ce titre ?
Bon, le sel, c'est le sel de la mer et le sel de la vie, ce qui donne du sel. Et les étoiles, c'est le repère fixe dans l'espace. Donc c'est un repère absolu. Et on en a besoin dans notre vie, quelle que soit. Alors là on est en plein dans la métaphore, hein. mais on en a besoin. Et je trouvais que le sel et les étoiles, ça combinait un peu cette double aspiration à mettre du sel dans ma vie et par l'eau de mer. Puis avec des étoiles qui donnent toujours une direction, voilà.
Amiral, vous avez eu des responsabilités opérationnelles militaires importantes. Je pense notamment au commandement qui vous a été confié dans le cadre du conflit au Kosovo, donc guerre au sein de l'Europe, et qui a été assez nouvelle compte tenu du fait que bon, ça faisait des décennies que l'Europe n'était pas en guerre. Donc par rapport à ça, quels sont les enseignements que vous avez tirés de cet événement, aussi bien à titre personnel, mais aussi dans la place de la France et de l'Europe dans les relations internationales?
Alors, cet événement lui-même, bon, il se trouve que j'étais l'acteur principal, l'amiral, donc l'acteur principal de cet événement, mais qui s'inscrivait dans un contexte qui était beaucoup plus vaste et pour lequel, comme vous savez, la mission qui était confiée par l'ONU était de ramener Milosevic devant le tribunal international, c'est-à-dire les dirigeants serbes. On n'était pas du tout une guerre contre les gens, les Serbes ou les Croates ou n'importe qui. Dans ma génération, on ne s'est jamais battu contre un peuple. On s'est battu contre des dirigeants. Et en fonction d'une légitimité internationale qui était donnée par l'ONU. Dans ma génération, on n'a jamais eu d'autres types de conflits. Voilà. Et donc c'était important de réussir la mission, ce qui a été fait. Et j'avais déjà commandé le porte-avions Clémenceau en Bosnie quelques années auparavant, dans un contexte un petit peu légèrement différent, mais qui était quand même à peu près le même. Le poids de la France quand elle dispose d'outils de puissance qui lui permettent d'être à la table des négociations. Vous savez, quand vous êtes dans une entreprise, vous pesez le poids du capital que vous apportez, l'actionnaire. Quand vous êtes dans les opérations militaires, vous pesez le poids des capacités militaires que vous apportez. C'est-à-dire que si vous apportez 90% des capacités militaires, vous dirigez. Si vous apportez 1%, vous suivez. Et quand on a... Alors, bien sûr, il y a les Américains et les Anglais, etc. Et ce qui est important, et ça a été la démonstration, c'est que certains des outils que nous possédons, et ils sont uniques, c'est-à-dire le porte-avions et les sous-marins nucléaires d'attaque, je ne parle pas des sous-marins de la dissuasion, c'est des outils qui nous mettent, je veux dire, qui nous donnent des actions dorées, quoi, des gold shares dans cette affaire. Donc à partir du moment où vous disposez de ces outils, vous êtes de ceux qui décident des moyens, non pas des objectifs qui vous sont donnés par les politiques, mais des moyens et des conditions dans lesquelles vous allez remplir la mission. Et les autres vous suivent. Ça, c'est important, et je veux dire, il est important que... C'est pas évident quand on regarde le sujet, on voit des bateaux, des avions, des chars, des soldats, etc. Mais là-dedans, les outils de puissance sont fondamentaux. Moi, commandant de force aéronavale, avec porte-avions, c'est-à-dire capable de frapper des objectifs en moins de 5 minutes, sous-marin nucléaire d'attaque, capable de bloquer la flotte serbe dans les Bouches de Kotor, et bien sûr des frégates, ça m'a donné, pas moi, mais à l'outil que représentait le groupe aéronaval, ça a donné au président de la République une capacité d'intervenir auprès des autres chefs d'État et de gouvernement.
Amiral, dans votre livre Le ciel et les étoiles, vous racontez vos aventures militaires, comme la bataille navale dans la mer Adriatique, où vous empêchez les Américains de bombarder le Monténégro, par exemple. Et à un moment, vous écrivez « C'est là que mon action devient aussi politique ». Quel est ce moment où vous prenez conscience que vous basculez dans le politique, et qu'est-ce que cela change pour vous ?
Mais moi, j'en ai toujours eu conscience. En tant que marin, j'en ai toujours eu conscience. En tant que commandant de porte-avions, et bien sûr, et là, commandant de force. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'avec les outils de puissance que j'avais, c'est-à-dire porte-avions, c'est un éclair d'attaque, que seuls les Américains ont, à une échelle plus grande, hein, faut quand même rester modeste, j'étais capable de contrer leur objectif politique parce qu'il ne correspondait pas aux objectifs qu'a donné le président de la République. Et donc, ça m'a donné... Bon, je le raconte parce que ça a été sur la place publique, donc sinon je ne le raconterai pas. J'ai été entendu en commission, le président, etc. Je le raconte parce que grâce à cet outil, on a évité d'aller bombarder la population serbe, en fait, bêtement, qui n'était pas l'objectif, qui n'était pas du tout notre objectif. On a essayé de ne pas détruire les centrales électriques qui, de toute façon, il fallait les reconstruire avant l'hiver. Ça ne dérangeait pas tellement Milosevic. Donc, il fallait que ces objectifs politiques, qui étaient ceux du chef de l'État, quand on arrive sur zone, on les décline. Et c'est là qu'est la dimension politique, qui est propre à la marine d'ailleurs, parce que vous avez le temps, vous êtes là, vous avez une capacité de frappe instantanée, mais vous avez la capacité de durer, etc. Vous êtes dans l'environnement dès le temps de paix, on passe du temps de paix au temps de guerre en 30 secondes, hein, je veux dire. C'est pas comme si vous envoyez une compagnie parachutiste, une fois qu'elle est en l'air et qu'elle a sauté, elle fait la guerre. Avec un bateau, il peut rester au large. On a actuellement des bateaux qui peuvent tirer des missiles de croisière à 1000 km, qui rentrent par la porte, par le bas de la fenêtre à 1000 km, mais qui sont là en des semaines et des semaines, hein, voilà, si nécessaire. C'est ça, cette dimension politique qui n'est pas simplement la dimension militaire. Alors moi j'en ai pris conscience, parce que j'ai fait carrière dans la marine, donc depuis que je suis tout petit, entre guillemets, j'ai fait des opérations sur porte-avions, sur frégates, etc. J'ai bien mesuré cette dimension. J'ai trouvé un point d'application et j'ai trouvé intéressant de le raconter, d'autant plus qu'il est public. Donc je n'ai pas de secret à garder dans ce domaine.
Amiral, vous avez justement évoqué les porte-avions à plusieurs reprises. Et dans votre livre, vous en parlez comme d'un véritable outil de puissance militaire, un outil qui donne à la nation une certaine autonomie, mais aussi un véritable poids politique. Et cependant, aujourd'hui, la France ne dispose que du Charles de Gaulle. Selon vous, est-ce une erreur stratégique ?
C'est une erreur stratégique. Voilà. Pourquoi ? Parce que les dirigeants politiques, c'est eux qui décident, hein, quand on leur présente... les capacités qui sont nécessaires. Après, il faut avoir la détermination. Alors, c'est pas très simple, hein, c'est facile de le dire, mais c'est pas très simple pour eux. Ce qui est compliqué pour un dirigeant politique, c'est que un porte-avions, pour prendre ça, ça a un coût. Ça a un coût, une échelle 0, 1. Quand le ministre de la Défense, pendant le quinquennat précédent, modernise l'armée de terre avec le programme dit Scorpion, il lance un programme de deux porte-avions. Mais ce programme, il peut être découpé en tranches. Il peut être, c'est comme quand on commande des hélicoptères, quand on commande des frégates, quand on commande des rafales. On peut réduire, découper, ralentir la cadence. Et donc, le programme Rafale, il a déjà coûté 10 porte-avions. Il y en a pour la marine aussi. Hein. Mais il a déjà coûté une dizaine de porte-avions. Mais il est transparent pour nos concitoyens. Parce que c'est pas 40 milliards d'un coup ou 50 milliards d'un coup. C'est dans le temps. Tandis que le porte-avions, c'est 4 ou 5 milliards, je ne sais plus combien maintenant, à peu près 5 milliards, c'est un coût unique. Donc ça fait, je veux dire, il faut l'assumer politiquement. Bon, pourquoi pas, hein. Sachant que comme il se construit en 10 ans, ça fait 500 millions par an, c'est pas grand-chose, hein, parce que c'est pas sur un budget de près de 40 milliards, c'est pas grand-chose. Mais c'est plus difficile. Enfin, je veux dire, là, c'est là où on voit la limite entre un homme ou une femme politique important, qui gère bien, et puis un homme d'État. Voilà. L'homme d'État n'hésite pas. Alors il peut dire non, hein. C'est son choix. Il regarde les intérêts de la France, ses capacités, etc. Il a des conseillers, le ministère de la Défense, et puis d'autres. Mais c'est donc une erreur stratégique. D'ailleurs, aucun pays ne construit qu'un porte-avions. Et moi, j'ai fait le tiers de ma marine avec 3 porte-avions, puis après 2. Et un, c'est que. Je pense que c'est de la lâcheté. Voilà.
Au-delà de l'importance des porte-avions dans la stratégie militaire française dont vous parlez, vous développez aussi l'intérêt du renseignement, de la force aéronavale et des missiles de croisière, qui sont des instruments de puissance qu'une nation doit posséder pour être maître de son action. Et selon vous, comment la France se positionne-t-elle par rapport à ces 3 éléments et comment elle tend à se positionner dans le futur?
Alors, elle se positionne bien comparée au pays de son importance. Pas forcément de son importance politique. On est membre permanent du Conseil de sécurité. On fait partie des 5 pays membres. Donc il y a le nucléaire, bien sûr, qui fait la remarque, mais il y a également ces 2 autres capacités. Après il y a un budget. On peut pas tout avoir. On n'est pas aux États-Unis avec un budget de la défense qui fait une fois et demie le budget de la France, hein, chaque année. Donc il faut bien faire des choix. On est bon dans l'enseignement. Parce qu'on a réussi à faire une cohérence entre le renseignement humain, le renseignement d'origine, j'allais dire électronique, on appelait tout ce qui est l'intelligence. On a beaucoup développé les capacités de la DGSE, de la DGSI, donc on est plutôt bon dans l'enseignement, y compris dans le renseignement technique. On est leader en matière de missiles de croisière, hein, puisque ce sont des missiles français qui s'affranchissent des contraintes que pourrait nous fournir la vente ou l'achat à tel ou tel pays, typiquement les États-Unis. Donc en Europe, on est plutôt leader. On est leader, je trouve que c'est bien, mais on est à 100% de nos capacités, 100% de nos moyens. Actuellement, on est une équipe de sport où il n'y a pas de remplaçant et on fait un championnat sans arrêt. Voilà, donc c'est ça qui est un peu inquiétant. Mais sur ces 3 points que vous évoquez, on peut toujours être insatisfait, mais on est réellement leader en Europe. C'est une position qui peut se dégrader en 2 ans. Hein. Ce n'est pas des positions qui sont éternellement acquises. Hein. On met 20 ans à les acquérir, mais 2 ans à les perdre, même moins.
Vous évoquez également, je cite, « une guerre froide 2.0 d'un nouveau genre, car le jeu de Go asiatique a remplacé le jeu d'échecs russe. » À quoi pourrait ressembler cette guerre selon vous et dans quelle position la France se retrouverait-elle alors?
On n'est pas très très bien préparé. Parce que ça ne fait pas partie de notre culture. Donc, il faut qu'on s'adapte. Vous le savez peut-être, on a développé dans la défense l'innovation, pour être toujours, essayer de ne pas être dans un train qui reste à quai. Et vous le savez peut-être, ça vous fera sourire, on a embauché les jeunes qui inventent les jeux du futur. Ils travaillent très très sérieusement pour la défense, hein. Je ne parle pas des hackers et tout ça, je parle des gens qui inventent les jeux du futur. Ils sont dans l'agence de l'innovation, enfin, il y en a qui ont été recrutés dans l'agence de l'innovation. Donc on voit bien qu'on est conscient que les paradigmes habituels, les logiciels habituels, tout ça, c'est, c'est solide, mais ça peut être fragilisé par les nouvelles façons de se battre, d'aborder les conflits. Et là, il faut être modeste. Voilà. Il faut essayer de ne pas être complètement perdu et ne pas s'appuyer sur une seule capacité. Mais c'est vrai qu'on était meilleur aux échecs. Hein.
Vous écrivez aussi, je cite toujours, « L'espace de la cyberguerre sans frontières a fait exploser les frontières de la guerre électronique classique. » Selon vous, à quoi ressemblera la guerre de demain avec l'avènement des nouvelles technologies? Et aussi, est-ce que vous pensez que la France est en retard par rapport à d'autres puissances comme les États-Unis, par exemple?
Non, alors, il y a deux choses. Quand j'évoque la cyberguerre, on est peut-être arrivé à un moment où, c'est un peu comme la dissuasion nucléaire, on va avoir de part et d'autre des capacités de dissuasion telles que on n'osera pas utiliser ces outils. Simplement, comme ces outils sont à la disposition d'organisations non étatiques, hein, on n'est plus dans un affrontement entre États, on n'a pas cette logique qui ressortissait à la partie nucléaire. Donc on est obligé de regarder comment on peut aborder cette cyberguerre. Mais réellement, ça serait pas mal si on arrivait à une dissuasion, c'est-à-dire je n'utilise pas mes moyens de cyberguerre parce que je sais que tu as les moyens de me détruire, entre guillemets, de façon informatique. C'est un peu pour ça que j'ai parlé de la guerre électronique qui était classique, c'est le radar qu'on brouille, c'est la transmission qu'on crypte, mais parce que ça arrive dans tous les domaines. Alors est-ce qu'on est leader? Je dirais qu'on n'est pas à la traîne, mais il ne faut pas se comparer aux États-Unis. Je vous ai donné un ordre de grandeur des budgets. La recherche aux États-Unis du ministère de la Défense est plus de 60 milliards de dollars. Hein, donc nous, les Anglais, on est à 2, 3 en euros, d'accord, mais enfin, et donc on ne sera jamais à ce niveau-là. Donc il ne faut pas qu'on se trompe. C'est-à-dire qu'il faut admettre des impasses, il ne faut pas se tromper sur les impasses. Et dans l'histoire, quand on se trompe sur une impasse, moi j'ai souvent une image, vous savez, parce que tout à l'heure j'ai pris l'image de l'industrie. Quand on prend une décision stratégique dans l'industrie qui est néfaste, les actionnaires, à la fin, ils se retrouvent tout nus au vestiaire, il n'y a plus d'argent, plus d'emploi. Quand les militaires se trompent, ce n'est pas au vestiaire qu'ils se retrouvent, c'est au cimetière. Donc il faut faire très attention. C'est pour ça qu'on est souvent très prudent, qu'on hésite à tout investir d'un côté et qu'on essaie de faire comprendre que, eh bien, il y aura des trous dans la raquette. Il faut que ces trous soient les plus petits possibles. On n'a pas la capacité d'avoir une raquette à la fédéraire, quoi. Mais il faut qu'on ait une raquette qui soit la plus étanche possible. Avec des alliés, c'est pour ça que la construction européenne est importante, qui partagent les mêmes valeurs, ça il n'y a pas de problème, mais qui partagent les mêmes ambitions, et ça c'est un problème.
Vous avez également rejoint le groupe EADS en 2006, donc devenu Airbus. Ce monde est celui de l'entreprise, innovant par nature, mais dont l'activité est étroitement liée aux décisions politiques et étatiques et aux enjeux géostratégiques. Donc Airbus est en effet aujourd'hui présent sur le secteur de la vente d'avions de ligne commerciaux, mais aussi dans le secteur de l'armement et de l'espace. Quels sont les plus grands défis du secteur pour la France et l'Europe?
Alors le secteur, c'est un secteur qui combine l'aéronautique et la défense, vous l'avez vu, et l'espace. Hein. Donc il y avait une tendance quand je suis arrivé chez ADS devenu Airbus, c'était de, comme les profits sont beaucoup plus rapides dans l'aviation civile et que dans la défense il n'y a pas de profit, mais c'est un flux d'activité, de tout mettre sur l'aviation civile, sur Airbus civil, enfin les A380, A330, A340, etc., de façon à prendre la première place à Boeing. Mais le risque, et on le voit maintenant en cette période de Covid, c'est que les cycles se retournent très très vite et du jour au lendemain, alors que les cycles de la défense, il y aura toujours des milliards sur la défense dans tous les pays, etc. Donc je me suis aperçu que quand on donnait une vision marchande à son ambition industrielle, si on n'avait pas une vision stratégique dans le même temps, on risquait, ben, comme j'ai dit, de retourner tout nu au vestiaire. Alors, ce n'est pas le cas parce que Airbus s'est pas lancé dans cette affaire, a réparti ses billes, etc., continue à être présent dans l'espace avec les lanceurs à la fois d'Ariane et de la dissuasion, dans les satellites, dans la défense, dans les hélicoptères civils et militaires, dans les activités duales. Mais c'est un petit peu compliqué. Mais la leçon, c'est que la logique marchande n'est pas celle. Elle peut conduire à un succès temporaire, on peut récupérer des milliards d'euros, de dollars, tout ce qu'on veut, mais quand le marché s'arrête, c'est fini, quoi. Donc il faut, c'est un peu avec ma comparaison avec la raquette tout à l'heure, il faut bien regarder les impasses. Et c'est vrai que dans le groupe Airbus, EADS, vous aviez des dirigeants, et c'était un débat intéressant, qui avaient des visions très très différentes de cette ambition. Un Français, comme le président que j'ai eu, Gallois, la France, comme j'ai dit, membre permanent du Conseil de sécurité, le rôle du nucléaire, le rôle politique de la France est important, donc les outils dont elle doit disposer, etc., doivent reposer. Ce n'est pas le cas d'un Allemand, forcément. Donc, ou d'un Anglais, oui, mais ils étaient moins présents dans le. Voilà. Mais ce qu'a fait la force d'Airbus, civile, c'est quand le président allemand d'Airbus, donc la division Airbus des avions civils, il n'y avait pas encore la 400M, a changé son staff. Tous les directeurs de programme étaient français, ce qui était stratégie, planification, finance des Allemands, et la vente un Américain. Et quand on a composé ça, alors à la grande fureur des Allemands, parce qu'on avait tous les bureaux d'études à des Français, comment c'est les Français qui ont la techno, grande fureur des Français, comment c'est les Allemands qui nous dirigent parce qu'ils ont la stratégie, planification, etc. Quand on a su composer, c'est pour ça que je parlais de l'Europe tout à l'heure, et bien on a rattrapé en 5 ans, on a rattrapé Airbus, qui est largement financé par le Pentagone, je le rappelle.
Maintenant, parlons d'une société que vous connaissez très bien, étant donné que vous en êtes actuellement le président, donc la société des membres de la Légion d'honneur. Donc, avant que je vous pose ma première question, je pense qu'il est important que vous présentiez brièvement cette société, parce qu'elle est quand même méconnue du grand public. On connaît tous la Légion d'honneur.
Alors, en France, le premier ordre national, c'est la Légion d'honneur, la médaille militaire, mais qui est réservée aux militaires, et l'ordre national du mérite. Donc, le premier ordre national, c'est la Légion d'honneur. En France, actuellement, il y a autour de 90 000 décorés de la Légion d'honneur, sachant que la loi permet d'en faire 130 000, donc contrairement à ce qu'on croit, elle n'est pas distribuée comme ça, machin chose. Hein. Demain, le président pourrait faire un décret avec 40 000 légionnaires. Voilà. Mais il a plutôt tendance à réduire. Et une fois que les gens sont décorés de la Légion d'honneur, on leur propose de faire partie de la société des membres de la Légion d'honneur, on est un peu moins de 50 000. Donc on n'a pas tout le monde, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas cotiser, 30 euros, les deux tiers déductibles, mais c'est pas ça en fait, qu'on pas envie, parce qu'il y a des gens même dans votre école qui ne veulent pas adhérer aux alumni, enfin bref, il y a des tas de choses comme ça. Et donc ces 50 000, répartis en 130 sections en France, 600 comités, et puis avec 65 pays étrangers, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, la Légion d'honneur, on entretient le prestige, les valeurs et l'aide aux aînés. Bien sûr, c'est assez classique, hein, les anciens qui ont la Légion d'honneur, etc., qu'on accompagne dans les EHPAD et tout ça. Et puis, on a un projet associatif, et c'est celui que j'ai envie de faire connaître, puisque je suis arrivé pour ça. C'est un projet associatif qui est tourné vers la jeunesse, vers le lien entre les générations, avec quelques piliers fondamentaux. L'apprentissage, donc on soutient l'apprentissage, on donne des prix aux apprentis, on s'arrange. L'aide à la naturalisation, l'aide aux jeunes méritants, soutien scolaire. Et ça s'adresse à tous les jeunes. Et ça s'adresse de façon d'autant plus pertinente. On a 600 comités en France, donc c'est quand même un maillage, c'est plus que les sous-préfectures, hein, un maillage important avec des gens qui sont légionnaires, qui sont partie de la société et qui sont des bénévoles à temps plein et qui se donnent à fond avec des exemples formidables. Je veux dire, en Eure-et-Loire, distribue de la, on n'est pas dans le fin fond de la Lozère, il distribue de l'aide alimentaire aux agriculteurs qui relèvent de l'aide alimentaire. Dans un autre département, ce sera une camionnette de relooking avec salon de coiffure, maquillage pour la femme d'une cinquantaine d'années qui a perdu son emploi brutalement, qui n'est pas super diplômée. Pour les hommes, il y a veste, cravate, il n'y a pas de pantalon. Mais voilà, dans un autre endroit, on va aider des enfants autistes à faire une pièce de théâtre. Dans un autre endroit, on va... Il y a mille projets, je ne connais pas tous les projets, hein, parce que chacun fait ses projets. En liaison avec l'intérêt de la Légion d'honneur, c'est que ça se passe toujours avec le maire, le préfet, le conseil départemental et le conseil régional. Parce que quand on arrive, moi quand je me déplace et que je vais la jeter dans l'Aude il y a 15 jours, là, parce que maintenant c'est plus difficile de se déplacer, normalement je me déplace 2-3 fois par mois, je ne vais plus à l'étranger, je ne vais plus outre-mer. Là, quand on va dans un département comme l'Aude, ben je vois le préfet, le conseil régional, le conseil départemental, le maire, là c'était de Castelnaudary et de Carcassonne, puisqu'on était sur ces deux emplois, et on a vu ce qu'au fond. Vous savez, moi je suis du Sud-Ouest et Laurent Spanghero, que vous connaissez peut-être, pour ceux qui sont, c'est la famille Spanghero, c'est les grands rugbymen d'une famille qui a donné des... Bon, Laurent Spanghero, c'est un chef d'entreprise qui a 80 ans maintenant, il fait une grande baraque, etc. Parti de rien, hein. Ça fait deux fois qu'il crée 500 emplois. Castelnaudary, ville de 10 000 habitants, voilà. Et il se défonce, il a 80 ans, il n'a plus rien à faire. Mais tous les jours, il va voir les jeunes, il les prend, alors lui, il les embauche dans son entreprise, mais il les fait embaucher, etc., au centre Leclerc et tout ça. Alors je prends Laurent Spanghero parce que c'est, dans ma génération, c'était les rugbymen internationaux qui étaient très connus. Mais c'est M. Dupont, M. Durand, Mademoiselle Duval, hein, qui font ça. Padirac, il y a la mère de Padirac, 25 ans mère, 40 ans institutrice, chevalier de la Légion d'honneur, elle le fait. Padirac, c'est un petit bled, hein, mais il y a des millions de visiteurs, le groupe de Padirac. Et ben, elle se défonce, et puis elle aide les gens qui sont là. Mais on ne fait pas la même chose dans le Finistère. Moi, je suis intarissable, alors il faut m'arrêter. Hein. En Savoie, dans le Finistère, dans le Haut-Rhin. Et ça, c'est formidable. Et moi, j'ai l'ambition de le faire connaître. Non pas pour se faire mousser, mais pour que nos concitoyens savent que dans ce monde associatif qui fait tourner la France, on n'est pas les seuls. ATD Carmon, le Secours catholique, les Apprentis d'Auteuil, enfin, il y a plein. Le plus qu'on a, c'est quand on arrive, on dit on est Légion d'honneur, là, aussitôt, vous avez tout le monde qui dit ça, c'est bien. Et ça, c'est très bien. Quand on crée le service national universel, il y a 10 préfets qui ont demandé à leur président local, qu'ils connaissaient, bon, est-ce qu'avec, comme on représente quand même des gens, il y a tous les niveaux, mais il y a tout, il y a le préfet, des TPG, des généraux, des ambassadeurs, des cadres administratifs, des pompiers, enfin, il y a tout, hein. Vous avez bien des idées. On se tourne vers nous. Pourquoi? Parce que les gens demeurent. Et ça, c'est super motivant. D'ailleurs, je n'avais pas prévu d'en parler dans le livre, mais je vais faire un livre après, mais bon, l'éditeur m'a demandé de faire un chapitre là-dessus. Donc, lui-même étant membre de la Légion d'honneur, étant suisse et membre de la section suisse de la Légion d'honneur, il m'a dit qu'il faut absolument parler de la Légion d'honneur. C'est pour ça que vous avez un rabat avec la Légion d'honneur sur le livre. Mmh. Mais c'est passionnant. C'est passionnant et voilà, on va fêter le centenaire parce qu'elle a été créée après la fin de la Première Guerre. Bon, ça se décale un peu à cause de la Covid, mais j'ai déjà l'accord du président de la République pour avoir 1000 jeunes dans la cour des Invalides, autour du président de la République. Voilà, parce que quand on va, il est grand maître de l'ordre, quand on lui demande quelque chose là-dessus, il dit oui tout de suite. En plus, on va lui apporter 1000 jeunes venant, méritants venant de... Alors là, c'est un peu compliqué parce qu'on a déjà décalé à cause de la Covid, mais voilà, c'est ça. Et ça, ça fait vivre la nation. Moi, ça me... Vous voyez, j'ai fait plein de choses là, qui m'ont passionné, mais je suis reparti sur un autre truc qui me passionne tout autant et qui n'a rien à voir avec ce que j'ai fait auparavant. Mais la vie, elle est faite pour faire plein de choses différentes, mais toujours guidées par la même étoile. Hein. Faut donner un cap. Voilà.
Et ce cap-là, si ce serait entre guillemets le même que vous ayez quand vous étiez en Amérique, ouais. Est-ce que ce ne serait pas celui de servir la nation? Vous allez servir votre pays?
Oui. Ouais. Il n'y a pas de grands mots hein, là-dedans. Vous savez, moi, j'aime pas les grands mots, les grandes déclarations. Hein. Mais J'ai une certaine éthique qu'on a tous, hein. Vous l'avez tous au fond de vous-même, forcément. Bah, sinon, vous ne seriez pas... Non, sinon, vous l'avez. Donc là, faut la sortir et la mettre en œuvre, puis se doter, donner les moyens de la mettre en œuvre. Jamais de compromission, mais moi j'ai confiance dans la jeunesse. Maintenant j'ai des petits-enfants, ils sont encore petits, mais moi j'ai très confiance dans la jeunesse. Il faut vous donner à vous-même un idéal, et les moyens. Alors cet idéal, il ne doit pas être banquinoesque. C'est pas forcément un idéal professionnel, être PDG, tartement, etc. C'est être droit, respecter des valeurs, sans tout ça. Honnêteté, je sais pas quoi, enfin bref, amour, plein de choses comme ça. Et vous tracez votre chemin. Et vous verrez que ce chemin, au bout, il y a toujours la même étoile, quel que soit le job que vous faites. En tout cas, moi, c'est ma conviction. Hein. Je ne sais pas si je vous l'ai fait partager, mais c'est ma conviction. Et j'en témoigne pour moi. Hein. Voilà, c'est tout. Donc, le reste, après, vous en faites ce que vous voulez. Mais moi, j'ai la confiance.
Très bien. Non, mais c'est un très beau discours sur la jeunesse. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui vous a amené, donc après avoir servi pour l'État, à vous orienter vers cette société? Est-ce qu'il y a eu un...
Alors, objectivement, non, parce que, comme je dis dans le livre, et c'est vrai, à chaque fois, on est venu me chercher. C'est-à-dire, est-ce que ça vous intéresse? Et moi, à chaque fois, j'ai dit oui. Mais je n'ai pas cherché naturellement ni à être président de la Légion d'honneur, ni à être président de l'Académie de marine, ni même à rentrer chez Airbus, etc. Moi, mon apogée professionnel a été quand j'ai commandé un porte-avions, une force aéronavale, qui pour un officier de marine, c'est ce qu'on peut faire de mieux, quoi. Et en plus en opération, en ayant fait pas mal de conflits. Donc voilà, j'avais accompli dans mon métier ce qui représentait pas le top, quoi, en gros, mais j'ai de la chance, hein, voilà. Et donc, mais à chaque fois, on est venu me chercher, je dis, comme ça, c'est vrai, hein, donc, et j'ai trouvé ça passionnant. Passionnant d'être dans l'industrie, d'ailleurs, je le dis, j'étais embauché alors que le président ne m'avait pas encore reçu, donc je n'avais pas fait mon test d'introduction chez le président. Bon, il dit, viens, rejoignez-nous, c'est pareil pour l'Académie de marine, pareil pour la revue de la Défense nationale, pareil pour un tas de choses. Mais une fois que vous avez, si vous voulez, après le... une fois que les gens vous connaissent, ils savent... moi, je réponds toujours oui, en fait. Quand c'est un beau sujet, un beau programme. Alors parfois, je charge un peu trop l'embarcation. Ben, j'ai une femme super qui me suit depuis bientôt 48 ans. Et non, je fais semblant d'hésiter, mais comme c'est bientôt notre anniversaire de mariage, et j'ai une femme super et des enfants super qui ont morflé de mes absences, ça c'est clair. Hein. Mais bon, famille unie, ouais. Il faut composer un petit peu avec tout. On se fait pas tout seul contre les autres. On se fait pas en étant isolé ou alors... c'est un travail d'équipe, en famille, avec tout le monde. Et moi, je trouve que la vie vaut la peine d'être vécue, je repartirai bien, quoi.
Je l'espère. Et est-ce qu'il y a des défis émergents que vous avez vu durant votre poste de président de cette société? Est-ce qu'il y a des défis spécifiques? J'imagine que la Covid a été un défi. J'imagine que vous avez dû prendre des engagements pour le projet associatif, l'adapter.
Alors oui, alors le projet associatif, il n'a pas été modifié par la Covid. La Covid, elle a montré, je reviens plus sérieusement sur la défense, l'ordonnance de 59 qui a été remplacée, du général de Gaulle sur la défense, avait dit que la défense était nationale et qu'elle s'adressait à tous les sujets. On avait un peu oublié, et ça c'est normal, parce que c'est pas le ministère de la Défense qui payait pour assurer la bonne santé des Français. On avait que des pans entiers de nos activités en tant que pays relevaient également de notre survie collective, dont la santé. Et on ne l'avait pas assez intégré. Alors, je veux dire, moi j'incrimine personne. Hein. Je veux dire, moi j'étais payé pour la Défense, donc la défense, l'outil de défense, la protection, capacité de gagner la guerre si on demande de la faire, etc. Mais on s'est aperçu qu'on n'avait pas assez intégré, on avait intégré les aspects économiques, pas suffisamment les aspects industriels, mais pas du tout les aspects de santé. Et maintenant, je pense que... Et vous voyez le vocabulaire, on emploie le mot « conseil de défense » actuellement, qui était quelque chose de strictement militaire depuis le général de Gaulle, à des sujets de santé, parce qu'on s'est bien aperçu que c'était un sujet collectif. Donc la Covid, elle n'a pas modifié mon projet associatif, le projet associatif de la Légion d'honneur, qui est toujours le même, on l'a adapté dans son déroulement, dans les célébrations du centenaire, c'est clair, mais on a, vous voyez, si on prend les anciens et les EHPAD, on a passé des conventions avec les EHPAD pour que, bon, et puis maintenant, on va faire un effort pour aider les aidants. On commence à en parler, mais nous, ça fait un an qu'on est là, parce que c'est parti de la base de sociétaires dans tel ou tel département qui a dit, bon, c'est bien d'avoir passé un contrat avec l'EHPAD, de façon à ce que, il n'y a pas de priorité, mais que si quelqu'un est financièrement en difficulté, etc., les gens ne leur payent, mais en même temps l'EHPAD, ça, bon, moins. Et on s'est dit, maintenant, on a vu les aidants, mais on les avait vus avant la crise Covid. Et donc, on a développé l'aide aux aidants. Voilà, c'est un exemple. Mais ça rentre dans notre projet associatif. Donc, et c'est pas moi qui l'ai trouvé. Donc, je ne vais pas en parler d'autant plus à l'aise que moi, j'ai engagé de l'argent là-dessus, c'est tout. Mais ça paraît normal. Ça paraît tout à fait normal.
D'accord. Et si vous aviez un mot pour la fin, à travers tout votre parcours, est-ce que si vous avez envie vraiment de mettre l'accent sur quelque chose, une leçon que vous avez appris pendant tout votre parcours, à la fois militaire et au sein de la société?
Je dirais, c'est un peu bravache, mais toujours y croire. Et c'est pas de la foi bête, hein. Voilà. Si on n'est pas poussé par ça, c'est...
C'était un podcast de France Amérique. Entretien avec l'amiral Alain Coldefy pour son actualité littéraire Le sel et les étoiles, avec la participation de Aubin González-Lapos, Camille Fessard, Maria Bolotnikov, Nathan Terris, Ralph Mogani et Rémi Gors. Merci pour votre écoute.